Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste pour ce quatrième hors-série consacré à la convention Eclipse. Alors je suis avec Johan Sipion. Johan, bonjour.
Bonjour.
Donc peux-tu nous présenter un petit peu Terres Étranges ?
Alors Terres Étranges, c'est une association 1901 dont je suis le président. Et qui en fait est une plateforme à la fois juridique et de communication.
Oui.
Qui permet en fait de donner de la visibilité et d'organiser mes projets, notamment mes projets ludiques. Car en fait, à la base, j'écris des jeux.
D'accord. Et alors, peux-tu nous détailler les projets ludiques en question ?
Alors, comme tes auditeurs pourront s'en rendre compte s'ils vont sur notre site, terresetranges.net, excellent site.
S'il en est.
excellent site. Le meilleur site du monde. On mène plusieurs projets de fond. En fait, parce qu'à la base, j'écris un jeu qui s'appelle Sombre, qui est un jeu d'horreur, dont le principe en fait est de se faire peur comme au cinéma. L'idée, c'est qu'en fait, chaque partie de Sombre, c'est un film d'horreur.
D'accord.
Donc l'idée, c'est un jeu avec des règles simples, vraiment simples, de manière à privilégier le roleplay et l'ambiance, parce que c'est ce qu'on recherche dans ce type de jeu. Pas d'univers dédié.
D'accord.
Et en fait, à chaque scénario, un setting particulier, une intrigue particulière, comme dans un film en fait.
D'accord.
Ça c'est un projet qui est bien avancé. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je suis prêt à publier une revue autour du jeu.
Ah d'accord, une revue.
Oui, tout à fait. Je t'en parlais dans un instant. Et au fur en fait autour de ce projet, se sont greffés d'autres.
D'accord.
Parce que l'intérêt de Sombre, c'est qu'en fait, c'est un système qui est générique au sens propre du terme, c'est-à-dire qui est dédié à un genre, donc l'horreur.
Oui.
Voilà. Et partant de là, il est à partir du moment où on veut faire peur, il s'adapte à plein d'environnements, à plein d'univers. Même si en fait, mon ambition, c'est pas d'en développer un officiel pour le jeu.
Pour toi, ça doit rester du générique en fait, du générique horreur.
Oui, parce qu'en fait, moi j'aime trop changer.
D'accord.
J'aime trop d'une partie à l'autre pouvoir faire un scénario avec des rednecks et puis un autre avec des zombies, puis un autre avec des vampires et puis des loups-garous dans le dernier et puis mélanger un peu tout ça. En fantastique et en horreur, il n'y a pas grand chose qui ne m'intéresse pas.
D'accord.
Je suis vraiment très client de ces genres-là. C'est vraiment quelque chose qui me parle de manière assez profonde. Et le problème d'un univers dédié, c'est qu'en fait, de facto, pour le rendre intéressant, il faut qu'il soit un petit peu pointu.
Oui.
Donc thématiquement, il soit cohérent. Mmh. Et donc cette recherche de cohérence et dans le développement d'un univers, en fait, bloque tout un tas de possibles.
C'est-à-dire,
typiquement pour Extinction, qui est un Dark World, donc un univers qui est développé pour être joué avec les règles sombres.
D'accord.
La thématique, c'est une thématique d'horreur marine. Donc du coup, quand on joue dans l'univers d'Extinction, on joue dans ou près de la mer, avec, derrière il y a toute une problématique lovecraftienne, donc avec Toulouse profond. Mais du coup, si on veut faire un scénario avec des vampires, ça devient compliqué. On sort du thème,
c'est pas vraiment adapté.
C'est pas trop raccord avec l'univers, etc. Ça fonctionne moins bien. Donc l'intérêt d'avoir un système générique au sens dédié à un genre, c'est justement de pouvoir varier les ambiances, varier les thèmes, varier les sujets. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse à fond.
D'accord.
Mais je me suis rendu compte que donc, à l'intérieur de cette diversité, il y avait moyen de creuser des univers spécifiques. Pour les gens qui aiment bien, partie après partie, creuser un univers, c'est quelque chose de très rôliste. Hein. Les univers persistants, quand même, c'est pour ça que beaucoup de gens jouent. En particulier, dans le cadre d'un jeu d'horreur, le jeu en campagne est moyennement adapté.
Oui.
Mais en tout cas, on peut enchaîner les one-shots ou les bursts.
Et avec, comme dit Hino, sous des angles différents, prendre un même univers et
exactement, d'un scénario à l'autre, explorer différentes petites facettes de l'univers, mais tout en restant thématiquement cohérent. Et donc, ça nous a amené, parce que du coup. Ce sont des univers que je développe en collaboration ou même pas en collaboration du tout parce qu'il y a des auteurs spécifiques avec d'autres personnes. Ça nous a amené donc à développer l'idée de Dark World, c'est-à-dire d'univers dédié, d'univers spécifique fonctionnant avec les règles de sombre.
D'accord.
Ah. Donc actuellement, on en a trois. Il y a du matos dispo sur le site.
Oui.
Les gens peuvent les télécharger parce que c'est gratuit. C'est-à-dire que sur terresétranges.net, cet excellent site sur terresétranges.net, il y a du matos gratuitement téléchargeable. Il y a donc en premier Sombre Light, qui est en fait un kit de démo de Sombre avec la quasi-intégralité des règles. Gratuitement et qu'on peut télécharger gratuitement et qui est parfaitement jouable. J'ai longtemps mené moi-même mes parties avec Sombre Light.
D'accord.
À côté de ça, il y a donc les Dark Wars dont je te parlais. Mm-hmm. Donc on en a trois. Il y en a un, alors, c'est donc Extinction, je t'en ai dit un mot tout à l'heure. Oui. C'est un univers marin et lovecraftien. Donc l'idée, c'est du post-apo après le réveil de Cthulhu. Donc Toulouse s'est réveillé.
Ah oui, c'est les grands anciens ont gagné. Enfin,
c'est pas les grands anciens, c'est que Toulouse
lui-même.
Parce qu'en fait, l'idée c'était justement dans une espèce de
cosmogonie.
Ouais, on va dire le merdier. Dans le merdier lovecraftien ou post-lovecraftien, c'est-à-dire dans cette débauche de grands anciens, de créatures surnaturelles, etc. En fait, d'en choisir un. Qui donne une thématique forte à l'univers qu'on voulait développer. Au lieu d'avoir un grand ancien pour tout, un grand ancien pour le feu, un grand ancien pour l'eau, pour l'air, tout ce qu'on veut, selon les problématiques élémentaires de Derleth, peu importe. D'avoir en fait un supplément typé avec un seul grand ancien, donc Cthulhu parce que c'est le plus emblématique, et de voir ce que ça donnerait un univers dans lequel Cthulhu se serait réveillé. En fait, grosso modo, c'est du Mad Max, mais au lieu d'être dans le désert, c'est dans l'océan. Le niveau des mers a beaucoup monté, les profondeurs sont sorties de la mer.
Okay.
L'humanité vit ses derniers instants, c'est donc son extinction. L'extinction du titre, c'est la nôtre.
D'accord.
On
comprend mieux le fait que les règles soient sombres.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un supplément d'horreur.
On sait qu'on va vraiment pas s'en tirer en fait.
À terme, il y a après nous les profonds et après eux les coléoptères. Hein.
Oui, voilà.
C'est ça l'idée. Donc c'est vraiment dans la pour donner à tes auditeurs une image dans la gamme de l'appel de Cthulhu, c'est proche dans l'esprit de Delta Green.
Okay.
Avec ce côté très crépusculaire, ce sans espoir, New Future, radicalement New Future. Et nous, en fait, donc c'était sélectionné.
Bien que dans Delta Green, il y a quand même des moyens de lutte et il y a quand même une résistance organisée.
Ah ouais, dans Extinction, on a
alors,
tout
à pas foiré. Du tout, tout a planté. Tout a
et de toute façon, en fait, dans l'idée d'Extinction, c'est que il n'y avait pas moyen de lutter. Au départ, il était trop puissant que tout. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, je voulais faire. Mon idée, c'est que je voulais, en toute modestie, parce que je me compare pas à Miller, mais je voulais traiter Cthulhu comme Miller a traité Batman dans Dark Knight Returns.
Okay.
C'est-à-dire en faire un truc bigger than life.
Okay.
Énorme. C'est-à-dire, en fait, Cthulhu, il apparaît pas dans le supplément et dans l'univers Extinction. En fait, il produit l'univers tellement il est gros. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui produit l'univers de jeu, c'est lui qui produit le setting.
D'accord.
Mais il n'y a pas moyen de le rencontrer. parce que c'est en fait, il a son réveil a changé la réalité de la Terre.
D'accord.
De base.
D'accord.
Et l'idée, c'était de partir de 2% du mythe de Cthulhu.
Oui.
Mais choisir les 2% qui avaient thématiquement été cohérents. Donc Cthulhu. Relette, les profonds, et puis on a rajouté Nyarlathotep parce que Nyarlathotep il est pratique en termes de jeu de rôle, c'est un embrouilleur grave, c'est un petit lascar.
Au niveau créature souveraine, il y avait Dagon aussi.
En fait, on a fait l'économie de Dagon. Alors le truc c'est qu'on était contraint déjà de partir du matériel libre de droit.
Ouais.
Donc du matériel strictement lovecraftien. Dagon est lovecraftien.
Tout à fait, ça fait partie des nouvelles.
Mais en fait, l'idée, ça a été vraiment de se concentrer sur un petit nombre d'entités et de créatures, et à partir de là, de développer nos propres trucs. Donc par exemple, on a développé des races de profonds. Plein.
D'accord, enfin, ok.
Une demi-douzaine. On les a bien typées, etc.
D'accord.
En fait, c'est un effet d'entonnoir. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, tu crées un point de compression. Sur le tu prends 2% du mythe de Cthulhu,
ouais.
Et après tu relâches pour voir à partir de ce point de compression jusqu'où tu peux
ce que ça va donner en le développant.
Voilà, c'est ça l'idée d'extinction. Pour avoir une thématique vraiment forte.
D'accord.
Donc l'horreur marine et Lovecraftienne. Alors à côté de ça, ça c'était un projet d'extinction qui prédate en fait la création de Terres étranges, l'association.
D'accord.
Et puis d'autres projets se sont greffés autour parce que depuis j'ai rencontré des gens qui se sont intéressés à Sombre, qui ont mené le jeu, qui l'ont trouvé sympa et qui ont pensé que les règles étaient intéressantes, qui m'ont donné du feedback et qui m'ont permis d'améliorer les règles. Partie de playtest après partie de playtest, on a beaucoup joué et qui ont développé leurs propres univers.
Ah, c'est bien ça.
En utilisant mes règles, ou alors qui ont récupéré mes règles pour m'autoriser leurs univers.
C'est des règles façon open gaming license.
C'est-à-dire qu'en fait c'est pas en licence libre du tout.
Ouais.
C'est juste que je collabore avec des gens parce que je trouve leur projet intéressant et qu'ils trouvent mes règles cool.
D'accord. Voilà. Ok.
C'est vraiment de la collaboration.
C'est de l'accord unipersonnel. Voilà.
En fait, on y gagne. C'est un win-win agreement. C'est ce que je veux dire.
Quelle horreur. Ok, je vois. Voilà.
C'est-à-dire que d'un côté, il m'aide à produire un système qui tourne.
Oui.
Un système d'horreur qui tourne. Et de l'autre côté, comme le système d'horreur il finit par bien tourner, ça leur permet de faire des parties cool dans leur univers.
D'accord.
C'est ça en fait. Et puis il y a un effet d'émulation qui fait que il est quand même beaucoup plus facile. De se mettre tous ensemble sous une seule bannière pour pédaler sur nos projets plutôt que de rester tout seul dans son coin à faire ça en solitaire. C'est quand même plus sympa de pouvoir échanger par le biais de nos forums.
Surtout que le thème est suffisamment resserré pour que vous ayez forcément des points de...
Ah, complètement, on est dans des univers très proches. Par exemple, il y a Thierry Salin, dont le pseudo sur le net est Polo, qui développe Cthulhu DDR pour Deutsche Demokratische Republik.
D'accord.
C'est un univers Lovecraftien là aussi, parce qu'on est un peu tous fans de Lovecraft quand même. c'est un univers Lovecraftien. Ça se passe dans les années 60 en Allemagne de l'Est.
Okay.
L'idée, c'est en fait, derrière le rideau de fer, il y avait aussi le mythe.
D'accord.
Donc en fait, ça joue sur... tous les archétypes qu'on associe volontiers à la culture soviétique.
Oui.
Et derrière du surnaturel Lovecraftien, en particulier des ghouls par exemple. Ça tourne sous le système de Sombre. Et c'est mis à disposition à mesure que Polo le rédige sur le site, gratuitement téléchargeable.
D'accord.
Et à côté de ça, on a donc Milvaux, qui est également un post-apo Lovecraftien comme Extinction.
D'accord.
Qui est développé par Pika Cthulhu, d'où son vrai nom Thomas Munier, qui en fait lui est parti sur l'idée que, pareil, les grands anciens s'étaient réveillés, l'apocalypse était en marche, ça a ravagé l'Europe.
D'accord.
Et en fait, mais au lieu d'être à thématique marine, comme Extinction, c'est à thématique sylvestre. Donc tout se passe dans la forêt, c'est-à-dire que l'Europe a été recouverte d'une forêt mutante hyper agressive.
D'accord.
Et en fait, thématiquement, c'est plus proche des délires à la Choumnigorat.
Ok.
Donc, le bouc au mille chevreaux, etc. Et en fait, une bonne partie de l'Europe est retombée au Moyen-Âge.
D'accord.
En plus, il y a le syndrome de l'oubli qui est un phénomène qui fait que les gens... petit à petit perdent la mémoire de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent, qui n'arrange pas les choses, et plus toutes les créatures hyper bizarres et hyper agressives qui se planquent dans la forêt. Et ça aussi, donc, c'est en téléchargement sur terresetranges.net à mesure que Thomas le rédige.
D'accord.
Et ça tourne sous le système Sombre. Et là, on est à Eclipse, et donc il y aura ce soir, parce qu'on est samedi là, il y aura donc ce soir proposé une partie de démo de Milvaux par son auteur.
D'accord.
Avec le système Sombre. Voilà, donc et tout ça se structure autour du site et autour du forum du site. On est aussi sur Facebook depuis pas longtemps, on s'est mis à la bonnéarité. Donc il y a un groupe Facebook autour de Sombre, et le projet actuel sous Sombre, de Sombre, parce que je t'en parlais au début, c'est donc une revue.
Alors, une revue avec un rythme de parution
Tout à fait à périodique et aléatoire.
D'accord.
En fait, l'idée, c'est de, de publier les textes que j'écris pour Sombre, à la fois les règles et puis aussi les scénarios.
Oui.
Sans doute aussi des aides de jeu, des conseils, ce genre de choses. Mm-hmm. Plus ou moins à mesure que je les écris.
D'accord, ok.
Voilà. De manière à ce que, en fait, le jeu... Bon, pour l'instant, il est présent sur Internet et téléchargeable en PDF. Mais okay. Je ressens le besoin et l'envie...
Oui.
De lui donner
une forme éditoriale un peu.
Ouais, quelque chose d'un peu plus concret.
D'accord.
Voilà. Donc la revue, ce sera un fanzine au format A5. Là, j'ai le premier numéro avec moi, là, donc tu peux le voir. C'est en fait. Ce sera sur un format de 76 pages. Dedans, dans le premier numéro, il y aura donc les règles.
Oui.
Et là, du coup, les règles intégrales.
C'est-à-dire, ok.
Inclut les éléments qui ne se trouvent pas dans le kit de démo.
Okay.
Donc notamment la liste descriptive des traits et les cartes de personnalité. Une des spécificités du système de Sombre, c'est qu'en fait il y a de l'aide au roleplay sur la forme de cartes qui permettent en fait, qui donnent des conseils aux joueurs et des guides pour, mm-hmm. pour jouer la psychologie de leur personnage.
D'accord.
Dans une perspective horrifique.
Ok.
Donc ça, ce matériel n'est pas dispo gratuitement.
Oui.
Il le sera par contre dans le premier numéro du fanzine.
D'accord.
Avec également un scénario.
Donc un fanzine également gratuit.
Ah non, le fanzine sera payant parce qu'il est papier.
Ah, d'accord. Fait, voilà. Ah, ce sera une publication.
Non, c'est pas
papier.
Un webzine, c'est vraiment un fanzine.
D'accord, d'accord.
Très old school, parce que je suis un garçon old school. donc non, ça sera...
Ah, mais il n'y a pas de mal, hein. Le papier c'est bien aussi.
Le papier c'est bon, mangez-en. Non, moi je voulais vraiment donner. Faire un objet concret en fait. Pour trancher sur la démarche PDF, en fait, mm-hmm. pour la compléter aussi. Donc je voulais vraiment un objet papier, et cet objet papier, ben, il est forcément payant, parce que bon, je ne me rémunérerai pas dessus,
mm-hmm.
je n'ai pas le droit, parce que je vais le sortir dans le cadre de mon assos,
d'accord.
Donc de l'assos 1901, et comme je suis président de l'association, je ne peux pas me rémunérer. donc du coup, en fait, les bénéfices iront à l'association et nous mmh. permettront de faire vivre le site et aussi d'être plus présent dans certaines conventions, en particulier mmh. en province, mmh. si on gagne un petit peu de sous. Et donc, je vous disais, en dehors des règles, il y aura un scénario zombie. Du zombie, car le zombie est cool.
Oui.
et c'est un scénario, en fait, 70s, inspiré... de la nuit des morts vivants, de l'armée des morts.
C'est du zombie avec des coupes afro ou...
Ouais, il y en a. non, sérieusement.
Et des pantalons pas de def et tout.
Il y a un zombie, coupe afro, col pelle à tarte.
Ah, génial.
Alors c'est pas. Je précise que c'est un scénario comme tous les scénarios de Sombre. Hein, c'est de l'horreur sérieuse. C'est pas de l'horreur parodique. Mais j'ai quand même.
Mais c'est pas Brain Soda.
Non, pas du tout. Mais j'ai quand même essayé de typer le scénario de telle manière qu'on sente un petit peu que ça se passe dans les 70s.
D'accord.
Parce que c'est une époque qui me plaît bien cinématographiquement parce que c'est une époque assez intéressante au niveau du genre horrifique.
Ouais.
Il y a plein de films très cool qui ont été faits dans les années 70, en particulier Massacre à la tronçonneuse, qui est pour moi une vraie bonne référence. Et
ah oui,
qui est...
avec Sombre, on peut faire du slasher aussi.
Alors, Massacre à la tronçonneuse, c'est pas un slasher, ça serait plus un survival, on va dire.
Ouais.
Et en fait, oui, on peut faire du survival avec Sombre, j'en fais. Mm-hmm. J'en fais en démo. Là, tu vois, il y a 2 heures, j'étais en démo, c'était un survival. Et ce soir, je serai encore en démo et avec le scénario zombie, donc, et c'est aussi un survival.
D'accord.
L'idée, c'est parce que, en fait, au niveau fondamental. Sur le développement des règles et le développement du système, l'idée c'est qu'en fait, qu'est-ce qui fait plus peur à un rôliste si ce n'est de perdre son perso?
Oui.
Voilà. Donc c'est un vrai bon gros truc sur lequel articuler un jeu et des règles horrifiques. Et il y a une bonne partie du système de Sombre qui s'articule sur cette idée. Donc nécessairement, ça facilite et ça favorise les scénarios type survival, c'est-à-dire l'objectif du scénar, c'est d'arriver au bout.
D'accord.
Voilà. Okay. Quels que soient ensuite les antagonistes qu'il y a les dangers, les créatures, ce qu'on veut, mais avec un but du jeu qui est souvent de survivre, d'arriver au générique de fin, quoi. C'est pas facile.
Mais souvent dans les films d'horreur, on va dire le classique, arriver à la fin, c'est quand il n'y a plus personne.
En fait,
souvent il n'y a pas de victoire en fait.
Alors le truc,
il n'y a pas de victoire possible.
Le truc, bah tu parlais du slasher. L'une des difficultés du jeu de rôle en fait, c'est que une structure de type slasher, c'est-à-dire un meurtre toutes les 10 ou 12 minutes,
ça élimine très vite les personnages. Oui.
Ben oui, ça élimine les personnages et c'est pas un problème au cinéma parce que on peut tuer autant de personnages sans faire fuir les spectateurs. Hein.
Ouais.
C'est un gros problème en jeu de rôle.
Oui.
Évidemment. Parce que si tu tues les persos, du coup, les joueurs se retrouvent à pas faire grand-chose.
Uh-huh.
Donc, il y a des contraintes inhérentes aux médias
au
jeu de rôle que je prends en compte et qui sont à la fois dans le développement du système et dans l'écriture des scénarios.
D'accord.
Donc, au niveau système, ça veut dire, par exemple, à Sombre, on crée un personnage en 5 secondes. 5 secondes.
D'accord.
Parfaitement jouable. En 5 secondes. Ce qui permet en fait de remplacer très vite et très facilement des persos qui meurent en cours de jeu.
D'accord.
À côté de ça, les scénarios sont étudiés de manière à ce qu'il y ait une sorte de progression dramatique vers le climax.
Oui.
Qui fait que les risques de mourir sont plus importants à la fin du scénar
qu'au début. Oui,
ou alors, si ça marche sur un rythme différent, il y a une astuce, il va y avoir une astuce narrative ou technique à un moment qui va permettre de renouveler les personnages ou de continuer à les jouer quand ils sont morts. Ou, voilà.
D'accord, ok.
Il faut en tenir compte.
Pour le zombie, c'est possible assez facilement.
Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'après, jouer un zombie, c'est tout de suite assez limité. C'est que c'est quelque chose qu'on peut faire sur un petit laps de temps, mais ça devient très vite répétitif en termes de roleplay,
intéressant. Fait,
mais il y a certainement d'autres manières de continuer à jouer des personnages morts et de les rendre intéressants. C'est clair.
Ça marche comment à peu près le système de sombre?
Alors le système de sombre, c'est super simple. Ça marche en fait au D20 et au D6, mais surtout au D20 en fait.
D'accord.
C'est du roll under. Donc il y a des jauges, il faut faire inférieur ou égal au niveau actuel de la jauge pour réussir son action.
D'accord.
La particularité en fait, c'est que c'est épuré jusqu'à la moelle.
D'accord.
C'est-à-dire j'ai dégraissé.
Alors ça c'est la feuille de
perso. Ce que tu vois devant
complète.
Toi, c'est la feuille du personnage. D'accord, et comme tu le peux constater,
je mettrai une photo sur le site.
C'est téléchargeable bien sûr sur le site.
Oui.
Hein. Et le truc, c'est que ça tient sur une A5. Voilà, toutes les stats tiennent sur une A5.
Effectivement, il n'y a pas grand-chose dessus.
Voilà, il y a deux jauges, une jauge d'esprit, une jauge de corps, qui permettent en fait de gérer toutes les actions. L'intérêt, c'est qu'en fait, les jauges sont à la fois, sont à la fois des compétences et des caracs, et en même temps des réserves. C'est-à-dire, la jauge permet en même temps de faire les jets.
Ouais.
Mais c'est aussi une mesure des
points de l'état du personnage.
Voilà. C'est-à-dire, pour donner un exemple et pour parler plus clair, ta jauge de corps, c'est à la fois le score sur lequel tu dois lancer ton dé pour réussir ton action, mais également le nombre de points de vie qui te reste.
D'accord.
La conséquence de ça, c'est qu'en fait, il n'y a aucun calcul dans son. Aucune addition, aucune soustraction.
Et tu coches juste les cases au fur et à
division.
Mesure que tu
voilà,
les perds.
C'est que du cochage. Sombre, c'est un système pour neuneux. Parce que moi, je suis un neuneux. C'est-à-dire que je suis un meneur qui n'est absolument pas doué pour la technique et le calcul mental. Donc moi, quand il y a des opérations, quand il faut ajouter ou soustraire des modificateurs, je me perds en 3 secondes. Donc j'ai très vite tendance à tout gérer à la louche.
Ouais.
Ce qui n'est pas grave pour un jeu d'horreur, en fait. C'est plutôt, pour un jeu d'ambiance, ça ne pose pas de problème. Et donc, plutôt que d'avoir un système compliqué que je gère à la louche, j'ai essayé d'avoir un système simple que je pourrais appliquer à la lettre près. L'intérêt d'appliquer le système tel que je l'ai écrit, c'est qu'en fait, comme je l'ai playtesté beaucoup de fois, c'est-à-dire que moi et puis les différents meneurs qui me font l'amitié de mener Sombre, on totalise plus d'une centaine de parties de démos.
Ah, j'ai lu ça dans Dissident, dans le numéro 1.
Et ce n'est pas une légende, c'est vraiment vrai.
C'est complètement affolant.
La plupart, les feedbacks sont sur sur le forum, donc les gens peuvent aller voir et compter. La plupart des feedbacks sont là-bas. Et la conséquence de ça, c'est que le système finit par quand même bien tourner.
Oui.
Donc l'appliquer de manière rigoureuse, ça permet en fait tout simplement de rester dans le cadre du jeu de rôle d'horreur.
D'accord.
Voilà.
Oui.
C'est-à-dire que
de rester dans le thème et dans le ton.
Exactement. Et de rester dans le ton de la dans le ton de la partie tel qu'il a été posé au départ.
D'accord.
Et de pas en fait de ne pas dériver de manière insensible vers le jeu d'aventure, ce qui serait le risque en fait.
Ok.
Voilà. Mmh. Et tu vois, il m'est arrivé.
Et de perdre ce qui fait sa spécificité.
Et
au
ce
passage.
Qui fait l'intérêt et de l'expérience sombre en fait.
D'accord.
Là, il m'est arrivé, c'est il y a quelques semaines, d'improviser un scénario.
Mmh.
En fait, c'était de la semi-impro, c'est-à-dire que c'était l'idée, c'était de partir d'un setting inventé par les joueurs et d'improviser un scénar par-dessus. Voilà.
D'accord.
Je simplifie, mais c'est grosso modo, okay. C'était ça, schématiquement. Et en fait, ben, pendant cette partie, je me suis appuyé sur deux choses. Mm-hmm. Le setting créé par les joueurs et leurs personnages aussi. Hein,
ouais.
Parce que j'avais créé les personnages dans l'enfilade.
Ok.
Donc, et les règles. Et en fait, appliquer les règles de manière stricte,
oui.
Ça m'a permis en fait de bien cadrer mon impro.
D'accord.
Tu vois.
D'accord.
C'est-à-dire que à ma table, je fais jamais de bidouille de règles. C'est-à-dire, je ne triche jamais.
Uh-huh.
Jamais. Il m'arrive, j'ai mes petites routines, mes petites habitudes, et puis il m'arrive d'improviser une procédure quand je sens que j'ai besoin d'un truc super spécifique et qui est pas dans le.
Alors, qu'est-ce que tu appelles une procédure en fait?
Pour moi,
ou une routine.
Alors, pour moi, une procédure, c'est une règle, grosso modo.
Une situation particulière.
Ouais.
D'accord.
Une routine, c'est une procédure qui est généralement informelle, c'est-à-dire que je ne l'ai pas forcément rédigée.
D'accord.
Qui est de l'ordre de l'habitude de jeu. C'est un truc que. Et tous les meneurs ont leur propre routine, en fait.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, c'est nos petites habitudes, notamment techniques.
Oui.
Qui fait qu'en fait c'est l'huile qu'on met dans le moteur du système. Il y a le système tel qu'il est écrit,
oui.
Puis après tel qu'on comprend quand on le lit, hein, ce qui est encore autre chose. Et après pour l'appliquer, généralement, parce que pour des questions de goût ou de facilité ou peu importe.
C'est de quel domaine en fait de la gestion de je sais pas de mettons de la gestion du stress chez les joueurs ou les
en fait moi en fait j'ai dit les meneurs et les autres meneurs de sombre,
oui.
On a des routines pour un peu tout en
ouais.
Fait. Moi ça va de la manière dont j'organise l'espace de jeu par exemple,
d'accord, ok,
à la façon dont je traite par exemple les accidents, voilà. Alors, il y a une
d'accord.
Procédure pour les accidents, c'est-à-dire il y a une règle. Mais cette règle, comme beaucoup de règles de sombre, elle s'appuie assez massivement sur le jugement du meneur.
D'accord. Ok.
Grosso modo, la règle donne une fourchette de dommages. Et
d'accord.
Moi, là-dedans, j'ai mes petites habitudes. C'est-à-dire en fonction de tel ou tel accident ou en fonction du moment l'accident se produit durant la partie,
mm-hmm.
Bah, je gère plutôt de cette manière-là, c'est-à-dire je mets plutôt beaucoup de dommages ou plutôt pas beaucoup. Tu vois.
D'accord, si tu te plantes en caisse au bout de 5 minutes du jeu, ça te fera pas grand-chose, alors que si c'est tout à la fin, tu seras à moitié mort en fait.
Voilà, et ça dépend, par exemple, si c'était intéressant pour le scénar,
uh-huh.
Ça dépend aussi de l'intensité dramatique que je veux donner à la scène. Ça dépend par exemple du nombre de points de corps qui va te rester.
D'accord.
Si t'as pas beaucoup de, si te reste pas beaucoup de cercles de corps à cocher, un ou deux cochages, ça va te paraître énorme.
Oui, oui.
Si t'as encore tous tes points de corps, il y en a 12 au départ,
uh-huh.
Tu vas pouvoir cocher un ou deux sans que ça te paraisse si
oui, voilà,
ça.
C'est « oh ça va, je peux continuer, tout va bien ».
La manière dont je gère ça, voilà, c'est une routine.
D'accord, ok.
Et okay. Bon, il y a certaines routines qui se renouvellent de partie en partie.
Uh-huh.
Ou qui se modifie. Et puis il y en a d'autres qui que j'utilise de manière très très régulière.
Et en fait, celles que tu réutilises fréquemment, elles finissent par se retrouver dans le livre.
Une partie finit par impacter les règles.
D'accord.
Parce qu'en fait, quand c'est vraiment pratique, que ça marche à chaque partie,
ouais.
J'en ai besoin souvent, ça
uh-huh.
Finit par devenir une règle. Mais il y a aussi d'autres trucs qui vont se retrouver également dans le bouquin. Dans les fanzines.
Alors, est-ce que dans les règles, tu comptes également ce qui n'est pas de la technique pure ?
En fait, j'ai pas de positionnement théorique là-dessus. Mais par contre, je sais que dans Sombre, il y aura une grosse partie conseils.
D'accord, ok.
Ce ne sont pas en fait des vrais conseils, ce sera en fait un étalage de routine. Je vais expliquer de la manière
dont tu gères ça.
Je mène mon jeu
uh-huh.
de façon à ce que les meneurs puissent y piocher des trucs qui les intéressent.
Okay.
Parce qu'en fait, j'ai réalisé, et ça, c'est l'un des vrais bons gros apports de la démarche de Terres étranges et du fait d'avoir tout un tas de meneurs qui gravitent autour du jeu. Oui. C'est qu'en fait, chacun s'approprie le jeu de manière personnelle. Ça peut paraître un truc basique. Et quand je dis ça, les gens disent « Oh, il enfonce des portes ouvertes du jeu de rôle. » Bah ouais, chaque meneur, il fait ce qu'il veut avec son jeu. Ouais, ok. Mais en fait, quand t'es auteur, en tout cas moi, je l'ai vraiment compris qu'à partir d'un certain nombre de feedbacks. Les gens ils m'ont dit « Ouais, moi j'ai fait ça comme ça, j'ai mené ça comme ça et ça de cette manière-là. » Et je me suis fait « Ah ouais, effectivement. » Ça a vraiment impacté la manière dont j'ai par la suite continué à développer et à écrire le jeu. Je me suis dit « Il y a vraiment des besoins très différents. Il y a vraiment des habitudes différentes. » Tout ça peut être en fait pour s'appuyer sur un socle commun qui sont les règles.
Oui.
Mais ces règles doivent être simples, souples et à la disposition du meneur et pour que par-dessus il puisse rajouter les routines qu'il veut, celles dont il a besoin.
Ok.
Et en fait, moi je sais pas de quelles routines les meneurs ont besoin. Ça les regarde. Ça dépend de leur univers, de leur scénario, de leur goût, de leur référence cinématographique, de ce qu'ils veulent faire avec leurs joueurs ou de ce qu'ils veulent pas faire avec leurs joueurs. Moi, je sais, je commence à connaître les routines qui me le font bien à ma table. Et c'est pour ça que j'en parlerai dans le bouquin et dans les fanzines. Mais je ne sais pas exactement quels sont les besoins spécifiques de chaque meneur.
C'est dans les films d'horreur, tu as des espèces d'archétypes de situations. Des situations typiques de films d'horreur. Par exemple, si tu as un film de zombies, il y a une chance sur deux pour qu'au bout d'un moment, les gens soient enfermés dans un supermarché.
Ouais. C'est bon.
Ou dans un stade.
Le supermarché est mieux.
oui, c'est plus sympa parce qu'il y a des objets à lancer. Ça, bref. Est-ce que ce type de choses, tu les retrouves dans les routines ou alors est-ce que c'est plus générique ?
Alors en fait, c'est pas de l'ordre de la. À mon sens, c'est pas de l'ordre de la routine. C'est-à-dire que moi, je cherche à faire des parties qui ressemblent à des films d'horreur. Donc forcément, je cherche à comprendre comment fonctionne le genre horrifique et ses sous-genres, parce que le film de zombies c'est un sous-genre du film d'horreur. Donc quels sont les éléments typiques qui font que quand on regarde un film on se dit sans sourciller que c'est un film de zombies. Parce qu'il y a des zombies à l'écran, mais ça ne suffit pas forcément. Il y a aussi une structure narrative, une manière dont le film est écrit, dont les personnages sont développés, qui fait que ça s'inscrit dans le genre particulier du film de zombies.
Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà lu le petit jeu Zombie Cinéma.
Non, je n'ai pas lu.
Ah, c'est vachement bien. Ils prennent en fait.
C'est le truc qui est dispo sur Silent Drift. Hein, c'est
ouais,
ça
voilà. Ouais. C'est où
par contre, j'ai lu des comptes rendus de partie, mais j'ai pas lu le jeu.
En fait, ça reprend la structure scénaristique du film de zombies. Avec ces différentes étapes, c'est-à-dire au début, on en entend juste vaguement parler, ou on apprend juste à connaître, on voit la vie quotidienne du personnage avant. Voilà ce type de.
Alors, c'est un truc que j'essaie d'apprivoiser aussi, dans le cadre de l'écriture des scénarios. Alors, au niveau des règles, en fait, ça joue à plusieurs niveaux. Les fondamentaux du jeu, le socle du jeu, les fondations, c'est les règles.
Ok.
Parce que je joue dans le cadre des règles et je les applique stricto sensu. Donc, les règles sont faites pour exprimer les codes fondamentaux du genre horrifique.
Ouais.
Du genre aussi vaste
global,
Donc, elles sont simples. Elles cherchent à privilégier l'ambiance.
C'est peut-être plutôt les mécanismes de la peur.
Alors, ok. Tu me poses 5 questions à la fois.
Pardon.
Je vais répondre à la première.
Excuse-moi.
Je vais répondre à la première et on va arriver au suivant après. Chaque chose en son temps. Alors le truc.
Désolé.
Alors le truc, c'est que non, c'est bien parce qu'on sait s'emporter par la conversation, mais ça veut dire qu'elle est intéressante, je pense. Fondamentalement, le système est dédié à l'horreur. Donc, en particulier, il doit être létal.
Oui.
Tout le problème, c'est l'équilibrage. C'est-à-dire qu'en fait, faire un système mortel, c'est bien. Mais il faut trouver le bon équilibre entre trop et pas assez, de manière à ce que ce soit jouable, au moins en one shot, si c'est en campagne, mais au moins en one shot, et que à l'intérieur du média jeu de rôle, on retrouve des sensations du média cinéma.
D'accord. Ok.
Il y a un gros travail d'adaptation, et le premier travail d'adaptation, il est technique. Sur cette base. Ensuite, en fonction du scénario que je veux écrire et que je veux mener, j'essaye en fait d'identifier des éléments typiques de tel ou tel sous-genre, parce que je fonctionne assez comme ça. Uh-huh. Là, sur le scénar que je vais mener ce soir, qui s'appelle House of the Rising Dead, mon kiff, c'était faire un scénar de zombies. Donc, j'ai vraiment réfléchi en termes de sous-genre. Qu'est-ce qui m'intéresse dans les films de zombies et qu'est-ce que je m'attends à trouver dans un scénar zombie, en fait. C'est ça le truc. Et là, à ce niveau-là, donc, c'est là que tu essayes de capter les codes et les clichés.
Uh-huh.
Parce qu'en fait, les clichés, c'est jamais des codes qui fonctionnent très très bien. Et tu essayes de mettre de ça dans ton scénar en trouvant l'équilibre entre la récupération, je prends tel code, je prends tel cliché, parce que si je les ai pas, ça fait pas film de zombie. Et en même temps, d'essayer soit de les bidouiller un petit peu, de prendre un petit
mettre
peu...
Mettre un twist, un truc...
Voilà, twister un petit peu, avoir un contre-pied, de manière à un tout petit minimum surprendre les joueurs.
Oui, voilà.
Rester dans du connu, parce que tu dis, ça sera un scénar zombie, donc les gens s'attendent à un scénar typique zombie. Et en même temps, avoir suffisamment de petites surprises pour relancer l'intérêt de gens qui, par ailleurs, pourraient être... si ce n'est des spécialistes, au moins des grands amateurs de films de zombies.
Oui, oui. Voilà. Donc en fait, a priori, s'ils jouent à sombre, ils aiment un petit peu le jeu d'horreur.
Voilà, c'est ça. Et le cinéma d'horreur.
Et le cinéma d'horreur.
Au moins, ils en ont vu. Ils ont vu quelques films et puis ils ont apprécié. Et en fait, le truc, c'est ça. C'est toujours être sur le fil entre trop de clichés et pas assez. Voilà. Être vraiment essayer de trouver un équilibre. Et cet équilibre, en fait, je le trouve par le playtest.
D'accord.
C'est-à-dire que le scénar que je mène ce soir, c'est la 13e fois que je le mène.
Oh la vache.
Voilà. Donc et tu te rends compte qu'au bout de 5-6 fois, tu commences à bien caler un scénar. Et au bout d'une dizaine de fois, ça commence à être vraiment bien carré.
Ouais.
Voilà. Et en fait, ben en une douzaine de parties, j'ai pu vachement affiner le scénario par rapport à mon tout premier truc. Et j'ai pu voir ce qui marchait et ce qui marchait pas.
Oui.
Et j'ai pu me rendre compte de ce qui en jeu donnait vraiment l'impression qu'on se trouvait dans un film de zombies ou pas.
D'accord.
Et quand c'était ou pas, j'ai eu tendance à le virer.
Ouais.
Et quand c'était quand ça donnait bien, j'ai tendance à le garder, essayer de développer, construire autour. Voilà.
D'accord.
Donc c'est un travail. Je sais pas comment sont les autres auteurs, mais moi je fais jamais rien de bien du premier coup. Donc des fois ça devient bien, mais c'est parce que je suis revenu dessus comme un taré une fois, deux fois, cinq fois, dix fois.
Et 100 fois.
100 fois. Et en fait, ce va-et-vient permanent entre la table et le clavier, c'est-à-dire j'écris, je playteste, je tire les leçons du playtest, je réécris, je replaytexte, etc. Ad nauseum. Mm-hmm. En fait, donc l'écriture itérative, pour parler clair, me passionne. Je trouve ça super intéressant.
Mm-hmm.
C'est vraiment génial. C'est un truc qui est spécifique au jeu de rôle et qui explique que moi, je kiffe le biclassage auteur-meneur.
Ouais.
C'est-à-dire mener les textes que j'écris, mener les scénarios que j'écris, etc. Et pouvoir les améliorer. C'est vraiment un truc super plaisant. Et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas en live, directement avec ton public.
C'est vrai, j'ai pas ton expérience, mais j'ai un scénario comme ça que je maîtrise en convention pour NP2, tout ça, bref. Et un scénario que j'ai fait 5-6 fois. Et au bout d'un moment, il y a vraiment le plaisir de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, alors qu'on l'a déjà fait, quel type de situation va se reproduire et tout. C'est vrai qu'il y a le côté polissage est assez agréable.
Alors... Tu vois, le scénar que j'ai mené cet après-midi, par exemple, je passe les 40 démos. Donc, et c'est un scénario donc, que je connais vraiment sur le bout des doigts. Et ben, j'ai quand même eu du 9 au bout de 25 parties, j'avais encore du 9.
D'accord.
Voilà. Alors qu'il y avait quand même 25 groupes qui étaient passés avant. Ouais. Tu vois, sur en plus une situation de départ qui était quand même très cadrée.
Mm-hmm.
Et c'est ça ce qui est assez merveilleux dans le jeu de rôle. C'est que t'as beau partir sur des trucs super précis, super carrés, tu mets des joueurs dedans et ça part en whiz. Et c'est fun, c'est ultra fun. Parce que ça me permet en fait, l'intérêt de mener, on parle de masterisation, au niveau maîtrise, l'intérêt d'enchaîner les playtests, c'est qu'en fait c'est super confortable. D'un côté, au bout de 5-6 parties, t'as vraiment le scénar
bien en main,
Donc, tu gères vraiment bien.
Ouais.
Et en même temps, ça me libère pour l'impro. C'est-à-dire, je suis vachement plus disponible.
Complètement, c'est ça.
C'est-à-dire que comme je sais que par ailleurs, je suis total en confiance. Parce que j'ai déjà vu pas mal de trucs. Certaines scènes se sont reproduites à plusieurs reprises, donc je sais que c'est des scènes qui sont un peu incontournables. J'ai appris à jouer mes PNJ, parce que j'ai joué plusieurs parties de suite, etc. Techniquement, je suis plus au point, je sais quelles règles appliquer à quel moment, etc. Quand ça dévie de ce schéma, en fait, je suis vachement plus détendu. Est disponible et réceptif aux inventions des joueurs. Et du coup, en partant sur des situations qui est sur une situation identique, moi, mes amorces sont généralement très carrées, justement parce que je veux rester dans, je veux que par exemple le scénario zombie, il s'exprime dans un sous-genre très particulier. C'est du zombie apocalypse, donc c'est du post-apo zombie, donc c'est un sous-genre du film de zombie que j'aime beaucoup. Donc pour rester dans ce sous-genre, il faut une amorce très carrée.
Bien cadrée.
Bien carrée, etc. Mais ça n'empêche pas en fait d'avoir des parties qui d'une table à l'autre
sont
très différentes. Et en fait. Du coup, j'ai pas d'effet de lassitude.
D'accord.
Au bout de 12 parties, là, tu vois, je repars ce soir et je suis super content. Donc,
du coup, cette multitude de playtests et du fait de refaire le même scénario, est-ce que ça va modifier le scénario lui-même ?
Ah ouais, à fond. Alors, ça la modifie de deux manières. Primo, déjà, je l'affine. C'est-à-dire qu'entre ce que j'appelle mon crash test, c'est-à-dire c'est la première partie de playtest, et maintenant le scénar a sensiblement évolué sur plein de trucs. J'ai eu de nouvelles idées, j'ai pu expérimenter des idées, je m'en suis rendu compte que c'était pas bon, donc je les ai écartées. J'avais des idées au départ qui n'ont pas fonctionné, donc je les ai virées. Donc il y a plein de choses qui se sont affinées. Et aussi, et ça les gens le verront dans le premier numéro du fanzine, à la fin de chacun de mes scénarios, il y a une section feedback qui là prend une dizaine de pages.
Ah d'accord.
Voilà. Laquelle en fait j'explique de quelle manière je mène le scénario et je donne mes trucs, mes conseils. Je dis voilà, je fais ça ici parce que ça fait tel effet, ou à ce niveau-là j'évite de faire ça parce qu'il peut se poser ce genre de problème.
D'accord.
Les joueurs ont plutôt tendance à faire ce genre de trucs, donc je gère comme ça.
D'accord.
Je donne mon feedback de meneur.
Je trouve que c'est l'un des gros points forts quand tu peux vraiment dire dans la partie ça se passe comme ça. Je trouve que le MJ qui va le mener quand il lit ça lui donne confiance en fait.
Je suis un garçon pratico-pratique, c'est-à-dire je suis pas théoricien pour un sou. Et moi ce qui m'intéresse dans le jeu de rôle c'est vraiment le côté hyper pragmatique. J'écris pour jouer et inversement je joue pour mieux écrire. Donc l'idée du feedback, c'est vraiment ça. C'est donner au lecteur et au futur meneur un aperçu de comment fonctionne le scénario à ma table. Il y a déjà des meneurs extérieurs qui ont mené ce scénar, et visiblement ça aide.
Oui.
Ça aide à la prise en main du scénario.
Ouais.
Donc, ça ne veut pas dire que les gens que j'incite les gens à faire ce que je fais à ma table. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est qu'ils fassent ce qu'ils veulent à leur table et ce qu'ils sentent juste.
Ouais.
Mais au moins, ça donne des repères.
Oui.
Et ça, c'est. Et ça, je pense que c'est cool. Voilà.
D'accord, très bien. Et tu m'as dit que tu n'étais pas très théorie, tout ça.
Non.
Non, non.
C'est pas mon
truc. J'avais lu un article super intéressant sur les structures de scénario.
Ouais.
Et c'est scénario toboggan, scénario en chapelet, voilà. Et après avoir playtesté un très grand nombre de fois un même scénario, ce qui s'est produit, c'est qu'au final, mon scénario s'est transformé en scénario bac à sable. C'est-à-dire que j'avais des situations toutes prêtes, dont je savais à peu près comment elles allaient évoluer. Et j'avais plus de schéma début, milieu, fin, si tu veux. J'avais juste des blocs ajustables selon ce que faisaient les joueurs. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça donne pour toi ?
Alors, moi, au niveau de la structure de scénar, comme je te dis, je ne conceptualise pas. C'est-à-dire que je fais au feeling en fonction de ce que j'ai besoin et de l'effet que je vais essayer de produire en partie. Moi, ce que j'observe, c'est que généralement, quand j'écris un scénar, j'ai un début et j'ai pas de fin. La première fois que je joue, je sais pas comment ça se finit. J'ai des vagues idées.
Ah, d'accord.
J'ai de vagues idées, mais je sais pas comment ça se finit.
Okay.
En fait, là, dans le scénar zombie dont on parle depuis tout à l'heure, maintenant le climax est écrit.
Ouais.
Parce qu'en fait, au bout de 4-5 parties, j'ai vu que ça s'orientait de manière
naturel
ou... ouais. de ce côté-là. Donc du coup, je l'ai écrit et formalisé. Parce que c'est un scénar que je destine à la publication.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et que je pensais que c'était intéressant pour les meneurs. Mmh. Après, la manière dont j'écris généralement, c'est une situation de départ cadrée,
oui.
bien carrée, uh-huh. Avec par la suite des événements qu'on peut injecter en fonction de ce dont uh-huh. on a besoin, soit en termes de narration pour faire évoluer l'histoire d'un côté ou de l'autre,
oui.
soit en termes de rythme. C'est-à-dire pour faire rebondir le jeu et que lorsque on se rend compte que oh, ça baisse un petit peu, que ouais. les joueurs ne savent plus trop quoi injecter dans le jeu.
Il est temps d'injecter un bon coup de...
Hop, il est temps de remettre un petit événement pour faire repartir le truc. Donc ça, c'est une question de feeling en termes de jeu. Le truc, c'est que de facto, le playtest, pour moi, en fait, au bout d'une douzaine de parties, tu vois beaucoup de trucs.
Ouais.
Tu vois beaucoup de trucs qui se sont mm-hmm. passés et en fait, ça tend en fait à épurer le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'optionnel, je le vire. D'une part parce que de base, moi, j'aime pas les options. Voilà. donc, un truc de base dans Sombre, c'est qu'il n'y a pas d'options.
D'accord.
Donc, et parce que je pense que l'un de mes boulots en tant qu'auteur, c'est de faire des choix et de les assumer.
Uh-huh.
Et en fait, proposer des options, pour moi, c'est...
C'est pas faire son boulot.
C'est pas aller au bout du choix, en fait.
D'accord.
C'est pas
D'accord.
aller au bout du choix. Donc, et en fait, dans les scénars, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu avais trois choix au départ, trois
ouais.
idées.
Mmh.
Et puis, finalement, il y en a une qui marche vraiment bien.
Uh-huh.
Donc, en fait, à quoi ça sert de mettre les deux autres?
Vu que ça marche moins bien.
Ouais. Vu que ça marche moins bien.
Mmh.
Il faut faire... moi, je pense que... en tout cas, ce que j'aime faire, c'est faire le meilleur choix pour que la partie soit la meilleure possible. Donc, du coup, quand j'avais trois idées au départ, je les ai peut-être testées les trois dans le cours du scénar,
mm-hmm.
mais en fait, dans le cours des playtests. Mais en fait, la durée du playtest a fait que naturellement, j'ai élagué les deux qui marchaient moins bien.
Uh-huh.
Donc,
okay.
on se retrouve à la fin avec un scénario qui est moins foisonnant,
ouais.
sans doute.
Mais plus efficace.
Qui ne l'aurait été uh-huh. si je l'avais testé qu'une ou deux fois.
D'accord.
Mais par contre, beaucoup plus efficace, uh-huh. clairement. Ouais, clairement.
D'accord. Là, une autre question qui me vient, c'est vu que tu as poli ton joyau.
Mon sombre joyau.
Hein. Et oui. En fait, je reprends une expression qu'a utilisée mon petit camarade Cyril Pasto, qui n'est ouais. malheureusement pas là. Et qui avait utilisé cette expression en parlant de ton jeu. Et donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est nom de Dieu, mais pourquoi ne pas le faire éditer en vrai, en dur
En fait, c'est le projet. Le projet, ça a toujours été de trouver un éditeur pour Sombre, parce que mm-hmm. moi, je suis vraiment auteur. J'ai pas vocation à me biclasser auteur-éditeur. De facto, je le fais pour sortir mon petit fanzine.
Ouais.
C'est un niveau très modeste. Le truc, par contre, c'est que je voulais avoir le temps de développer le jeu exactement comme je le voulais.
Uh-huh.
En particulier, je voulais avoir le temps de le playtester à mort. À mort.
Là pour le coup, ça a l'air d'être plutôt réussi.
Bah, j'espère qu'en fait, j'espère ouais. que les gens en lisant les règles et en lisant les scénarios, se rendront compte qu'effectivement, il y a du playtest derrière. J'espère que c'est apparent et que ça donne confiance, en fait. Ça donne envie de jouer. Parce que c'est ça aussi. Hein, c'est que quand on se rend compte que l'auteur a beaucoup playtesté, ça met en confiance le meneur. Il se dit, je me lance dans un truc qui est bien carré. Donc, l'idée, c'est que ça facilite... Le passage de la lecture
ouais.
au jeu, parce que la finalité ouais. de Sombre, c'est pas de produire un livre qui doit être lu, hein. c'est de produire de belles parties.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, donc le projet, ça a été toujours de trouver un éditeur, mais je voulais avoir vraiment le temps de le playtester. Et tu vois, ouais. bon, sans partie de playtest, ça peut pas du tout s'intégrer dans un calendrier d'édition
non, carrément
classique
pas.
Chez un éditeur professionnel ou semi-pro ou associatif. C'est vraiment pas possible. Donc l'idée dès le départ, c'était de faire le jeu, de l'aboutir de mon côté,
oui.
et une fois qu'il serait terminé, d'aller le présenter, d'aller faire le tour des éditeurs pour voir s'il y a des gens qui seraient intéressés. Là, il se trouve que dans l'entretemps, je me suis dit que ça serait quand même sympathique et cool de lâcher des trucs dans la nature avant la publication, l'éventuelle publication en bouquin. Uh-huh. Donc, je suis arrivé sur cette idée de fanzine.
D'accord.
En fait, le projet ne change pas. C'est-à-dire que je vais sortir mes petits fanzines dans lesquels je vais publier peut-être, 60 ou 70% du jeu. Il y a des choses qui ne seront pas très adaptées à la parution en fanzine. Mmh. En particulier, j'ai un très très gros chapitre de conseils, comme je te le disais.
Ouais.
Donc, je vais peut-être en mettre des petits bouts dans les fanzines, mais comme il est très très gros, ça va être un petit peu délicat. Mais en tout cas sortir mes petits fanzines à un petit rythme à mesure que j'écris en fait le jeu, et à mesure que je vends les fanzines aussi, parce que l'idée c'est quand même que le numéro 1 paye le numéro 2 puis le numéro 2 paye le numéro 3, voilà. Et une fois que j'aurai sorti mon petit matos, aller voir un éditeur en lui disant voilà monsieur, j'ai fait tout un tas de fanzines, regardez, est-ce que vous voudriez pas faire un gros bouquin avec. Et puis je rajouterai du matos inédit par derrière.
Alors combien tu as de scénarios différents jusqu'à maintenant ?
Pour l'instant, dès qu'ils tournent et qu'ils sont vraiment aboutis, j'en ai deux. J'ai un troisième en cours de développement.
Ouais.
Un quatrième qui est en écriture, que j'ai déjà joué mais sous une forme très différente, qu'il faut que je reprenne.
D'accord.
Et un dernier, car j'en veux cinq. Un dernier que j'ai mené, mais qui est assez particulier parce qu'il se joue sans règles, donc un petit peu atypique. Donc je ne sais pas s'il sera dans les listes de base.
Sans règles.
Sans règles. Ouais. C'est un
scénario sans dés peut-être.
Non, sans règles. C'est un scénario pur roleplay en fait. Dans l'ambiance, c'est une sorte de mélodrame horrifique. Uh-huh. C'est Festen avec des petites scènes gore par-dessus.
Eh ben yon.
Ouais, je l'ai mené plusieurs fois, notamment à la CJDRA en fait.
Ouais.
C'est un scénar qui date de la CJDRA.
Ah oui.
Ça fait un paquet d'années, ouais. C'est un scénar super sympa, qui arrache bien.
À ne pas mettre entre toutes les mains, a priori.
Non. Parce que c'est vraiment un. Je veux pas griller le truc du scénar, mais c'est un scénario. Ouais, c'est un scénario qui est plus proche du réel et donc qui touche plus les joueurs que le scénario zombie de base.
Oui, d'accord.
C'est plus personnel. C'est de l'horreur plus personnelle.
D'accord.
Et à côté de ça, mais je pense pas qu'il sera dans le bouquin de base parce que à la réflexion, je me suis dit qu'il n'était pas forcément super pertinent de mettre dans un livre de règles un scénario sans règles. La connexion n'était pas forcément évidente.
Effectivement.
Si on met des règles dans un bouquin, il faut avoir des scénars. Et étant donné qu'il n'y a pas d'univers dédié, il faut qu'il y ait des scénars pour que les gens...
Tu vois, moi, ça me dérange qu'on dise sans règles parce que ça, en fait, ça n'existe pas. Il y a forcément des règles, même si ce sont des règles sociales.
Oui, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de technique.
Oui, voilà.
Au sens rôliste du terme.
Voilà.
Il y a pas de feuilles. Enfin, les feuilles du perso sont en pur texte.
Oui.
Donc, il n'y a aucun élément technique. On lance pas de dés. Et il n'y a aucune procédure technique d'aucune sorte. Mmh. Et donc, comme je veux quand même 5 scénars dans le livre de base, il y aura sans doute un scénario solo.
D'accord.
En fait. Okay. Parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est bien pratique en convention. Souvent, dans les conventions, il n'y a pas beaucoup de monde.
Ouais.
Il m'est parfois arrivé d'avoir un seul joueur qui voulait jouer et rien pouvoir lui proposer parce que je n'avais pas de scénario adapté.
Ouais.
Donc, je pouvais régler ce problème.
Mmh.
Et puis, En lisant les forums, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément énormément de joueurs dans leur entourage, donc ils jouent de temps en temps, mais par contre qui peuvent assez facilement kidnapper un joueur, genre leur frère, leur cousin,
leur grand-mère, victime innocente.
Voilà. Et en fait, un solo, ça serait pas mal pour tester en fait le. Je me dis, un solo, ça serait pas mal pour tester le jeu.
Ouais.
Avant d'inviter des potes, en étant bien sûr que le jeu
plaît. Que ça marche. Ouais.
Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, à côté de ça, il y aurait le scénario zombie. Et il y aura aussi un scénario d'horreur gothique dans l'ambiance des films de la Hammer. Parce que je suis un gros fan des films de la Hammer.
D'accord.
C'est très cool. Je suis un gros fan de Terence Fisher, de Christopher Lee et de Peter Cushing. Il y aura quelque chose dans cette ambiance-là.
D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux rajouter quelque chose?
Venez sur terresétranges.net. C'est cool. Il y a des choses à télécharger. On y discute. On est accueillant. Et puis venez découvrir Sombre.
Et ben voilà. Et bien merci à toi.
Merci à toi, Cobal.
Et puis à très bientôt. Allez, ciao.
Ciao.